Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Deux sondes s'envolent ce mois-ci vers la planète rouge. La mission russe Phobos Grunt qui doit collecter des échantillons du satellite Phobos et nous les rapporter en 2014 si tout se passe bien. Et la mission américaine MSL, Mars Science Laboratory, qui déposera le robot Curiosity dans le cratère Gale en août 2012 si tout se passe bien et tout. Pour en parler, Francis Rocard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. On va s'intéresser, Francis, si vous le voulez bien, tout de suite à Phobos Grunt, parce que c'est peut-être la mission la plus, je dirais, complexe, ou en tout cas la plus difficile qu'on va observer au lancement et dans les mois qui viennent, si tout se passe bien, parce que c'est la première fois depuis 15 ans que les Russes lancent une sonde interplanétaire. Phobos Grunt, Grunt en russe, ça veut dire « seul ». On vise le sol d'un petit satellite qui s'appelle Phobos. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette mission ?
Alors effectivement, c'est une mission extrêmement complexe pour différentes raisons. D'une part parce qu'on fait l'aller-retour. Donc la mission a plusieurs étapes critiques. Le lancement a lieu avec un zénith, qui est dont le premier étage est un booster d'énergie à l'époque. Et la stratégie des Russes est assez curieuse. On se met en orbite basse et ensuite on part vers Mars. Bon, ça c'est un détail. Et après, schéma classique, on s'insère autour de Mars d'ici 9 mois de croisière à peu près. Et alors là, les choses sont un peu compliquées parce que les Russes ont besoin, visiblement pour avoir le soutien de toute leur communauté, d'avoir tout le monde à bord. Donc non seulement c'est une mission de retour d'échantillon, mais elle fait plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle va observer Mars pour son atmosphère, un peu la surface, mais également sur une orbite particulière, elle va vouloir s'intéresser à la magnétosphère de Mars. Donc on va prendre des mois et des mois entre le moment où on arrive sur Mars et le moment où on va réellement s'approcher de Phobos. Et là, pour s'approcher de Phobos, ça va être assez intéressant. Ça avait déjà été tenté en 88, hein, puisqu'il y a eu une mission Phobos 88 qui n'a pas été totalement un échec, hein, qui a été quand même un succès, mais la phase terminale a échoué. Et on va se mettre sur une orbite assez particulière qu'on appelle une quasi-synchronous orbite, orbite quasi-synchrone. En fait, on se met sur l'orbite de Phobos, mais on la décale de 50 km. Le résultat, c'est que quand Phobos fait un tour autour de Mars, nous faisons deux tours autour de Phobos. Donc c'est juste un décalage de deux cercles pour schématiser et ça permet d'être virtuellement en orbite autour de Phobos, ce qui n'est pas possible sinon. Il n'y a pas la gravité, il n'y a pas les conditions et ça permet d'observer Phobos, d'être dans une situation d'attente, de repérer bien le site d'atterrissage et de bien identifier la façon dont on va se poser et où on va se poser. Il va falloir se poser à l'extérieur, côté lumière. Si on se pose entre Mars et Phobos, on n'a pas du tout assez d'énergie. Ça va être une vraie difficulté pour cette mission. De toute façon, c'est l'énergie. Et donc, le choix a été fait de se mettre à l'extérieur pour avoir un peu plus de lumière. Et il va y avoir une descente qui va durer environ une quarantaine de minutes, totalement automatique, bien sûr. Il n'est pas question de piloter. Et ça, c'est une phase très difficile. Nous, au CNES, nous avons un peu l'expérience de ce type de descente, puisque nous avons longuement étudié la descente de Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko, qui aura lieu en 2014. Donc on ne l'a pas réalisé, mais néanmoins on l'a étudié sous toutes les coutures. Donc c'est des conditions à peu près similaires, parce qu'on a un corps de gravité très faible, on va se poser avec des risques de rebond, etc. Donc quand l'engin Phobos va se poser, il fait environ 400 kg, il va immédiatement allumer des rétrofusées pour éviter le rebond.
Pour le plaquer au sol.
Pour le plaquer au sol. Et ensuite, plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système d'ancrage, par exemple. Il va se poser sur des pieds, comme on se pose sur Mars ou sur la Lune, mais il ne pèsera que probablement quelques centaines de grammes. Donc, au moindre mouvement mécanique, par exemple du bras, qui pourrait vouloir creuser le sol, c'est la sonde qui va se soulever. Donc, il va y avoir des difficultés de ce genre pour le prélèvement d'échantillons lui-même. Et ça va être l'urgence, c'est-à-dire tout de suite, on va vouloir prélever des échantillons. Il y a un système assez intéressant. Ils ont réutilisé un système qu'on connaît bien à Paris qui s'appelait le pneumatique. Le pneu. On utilisait ce terme, nos parents, on va dire.
Pourquoi on le connaissait bien à Paris ?
Ben parce qu'il y avait un système de pneumatique pour transférer des messages. C'était des tuyaux on mettait dedans un tube avec un système étanche et on mettait de l'air comprimé.
De l'air comprimé.
Le tuyau parcourait des kilomètres dans Paris et arrivait à destination en un temps absolument record. Et c'est comme ça qu'on va transférer l'échantillon depuis la partie basse de la sonde jusqu'au sommet où il y a la capsule qui doit repartir. Donc on a un tuyau avec un système d'air qui va envoyer le petit réceptacle où, dans lequel il y a les échantillons dans la capsule via ce système assez original. Et ensuite, donc, probablement quelques semaines après l'atterrissage, le véhicule de retour va décoller très vite pour garantir qu'on n'aura pas de pépins. Le plus vite on redécolle. Ça ne veut pas dire que la mission sera terminée pour ce qui reste au sol, puisque l'essentiel de la sonde reste. Mais la toute petite sonde, elle va stabiliser trois axes. Elle est vraiment minuscule, elle doit faire peut-être un mètre carré, et va faire son retour vers la Terre toute seule. Donc il lui faut une grande autonomie, etc.
Mais quand vous dites redécoller, ça veut dire que c'est un ressort qui tout d'un coup est libéré, qui permet justement à la petite sonde de partir, et ensuite elle utilisera ses moteurs. C'est-à-dire que c'est très sûr.
Alors pourquoi c'est un ressort? Parce que ça permet d'éviter toute pollution. Donc le système à ressort, il ne pollue pas. Alors que si on avait allumé des petites rétrofusées tout de suite, on avait un risque de polluer le sol. Or, la grosse sonde qui reste, le lander qui reste sur le sol, lui, va continuer à faire de l'analyse in situ, comme on dit. C'est-à-dire prélever, analyser. Il y a un instrument français, Micromega, qui va le faire. Il y a le gas analyzing package, c'est un gros spectromètre de masse avec chromatographie en phase gazeuse, d'ailleurs fourni par les Français, avec un système assez original qu'on appelle un TD-LAS. Alors, c'est quoi ce système? C'est des diodes laser accordables, c'est-à-dire qu'on modifie un tout petit peu leur fréquence, qu'on fait, on met un petit peu de gaz. Alors ce gaz, il vient d'où? Il vient de la pyrolyse de l'échantillon, c'est-à-dire l'échantillon a été mis dans un four, on chauffe et on va mettre dans un tube les gaz qui sortent de cet échantillon, en espérant qu'il y en ait d'ailleurs. Et là-dessus, la diode de laser accordable va faire son office, c'est-à-dire qu'on va scanner quelques longueurs d'onde, pas beaucoup, parce qu'on ne peut pas beaucoup faire varier la fréquence d'un laser, mais on peut comme ça, pour chaque diode, mesurer par exemple le CO2 pour une diode, la molécule H2O pour une autre, que sais-je encore. Donc on a comme ça 4-5 diodes, et c'est une fourniture faite par l'Université de Reims de faire ce type de mesure qui a été beaucoup faite notamment par Gérard Mégy dans un ballon stratosphérique sur Terre, donc dans un milieu ouvert. Là, l'originalité, c'est qu'on va le faire dans un petit tube de gaz radioactif, parfois des radicaux qui vont réagir avec les parois. Enfin bon, il va y avoir beaucoup d'étalonnage à faire pour arriver à interpréter ce qu'on va mesurer.
On parle des difficultés, mais si ça marche, c'est génial quand même. Ça, ramener 150 à 200 grammes d'échantillons de Phobos sur Terre, ça serait vraiment une extraordinaire première.
Alors, tout matériau extraterrestre est une mine d'or. Ça, c'est certain. On a les météorites, on a les échantillons lunaires. Je rappelle quand même que c'est grâce aux échantillons lunaires qu'on a complètement modifié notre vision de la façon dont la Lune s'était formée. L'impact géant, c'est une notion qui faisait rire à l'époque pré-Apollo. Et ce n'est qu'avec vraiment 10 ans d'analyse bien digérée que les gens sont convaincus que, ben oui, c'est pas très probable comme événement, mais néanmoins, c'est le seul qui soit compatible avec ces fameux échantillons. Donc, les échantillons sont extrêmement précieux. On a des informations qu'on ne peut pas avoir à distance en analysant des photons, que ce soit en orbite ou même in situ. Les instruments d'analyse in situ sont limités par la résolution en masse. On ne peut pas faire de mesures de rapport isotopique très fin. On ne peut pas faire de datation des roches. Enfin, tout ça n'est pas possible in situ, c'est très difficile. Et donc, le retour de l'échantillon est capital. En plus, on pourrait avoir, des gens le pensent en tous les cas, quelques échantillons martiens. Il n'est pas impensable qu'il y ait sur Phobos actuellement des fragments éjectés lors d'un impact sur Mars qui se soient redéposés sur Phobos. Donc on pourrait avoir accès à moindre frais, je dirais. Pourquoi ? Parce que la mission de retour d'échantillons martiens était encore plus complexe et difficile. Ça fait 20 ans qu'on en parle. On sait qu'elle doit coûter entre 5 et 10 milliards. Il faut probablement 3 lancements de fusées successifs pour faire une telle mission, tellement elle nécessite de l'énergie et des rendez-vous en orbite, des choses très complexes. Donc si on pouvait avoir des échantillons de Mars venant de Phobos, ça serait en plus la cerise sur le gâteau.
Alors, c'est la seconde fois que les Russes, soviétiques d'abord, mais visent Phobos. Pourquoi? Quel est l'intérêt de la cosmonautique soviétique et russe, ou en tout cas des scientifiques russes, sur Phobos? Est-ce que c'est parce que c'est pour des raisons d'économie d'énergie, comme vous le décriviez, ou il y a une particularité, il y a une histoire Phobos?
Je crois que que c'est un petit corps dont l'origine est inconnue, donc il y a un intérêt fort à étudier ce petit corps. On se pose la question de savoir si Phobos est un petit peu comme notre Lune, le résultat d'un impact qui s'est réaggloméré pour former des lunes, Phobos et Déimos, ou si c'est un astéroïde capturé. Ou si ça s'est formé en même temps que Mars. Bon, c'est un peu les trois hypothèses. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Je pense que ces échantillons de Phobos nous apporteront la réponse. Le deuxième argument, c'est le fait qu'un retour d'échantillon est une mine d'or incomparable par rapport à une mission sans retour. Et là, les Russes ont été très pragmatiques. Ils ne se sont pas lancés dans le retour d'échantillon de Mars parce que c'est un petit peu trop difficile, même pour eux, et même pour les Américains et les Européens qui essayent de se réunir pour le faire. Donc, ils ont visé Phobos. Voilà, je crois que c'est ça l'explication.
C'est difficile le rapport entre les Russes et Mars. 100% d'échec sur les missions martiennes qui sont parties de...
Peut-être pas 100%, mais effectivement 95. Phobos 88 a tenu 3 mois en orbite. Bon, ISM, dont d'ailleurs j'en faisais partie, dans l'équipe scientifique qui était pilotée par Jean-Pierre Bibring, ISM a donné les premières cartes minéralogiques de Mars montrant l'hydratation de certaines zones. C'était déjà une information intéressante.
Pourquoi Phobos a été perdu, la première mission Phobos? Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, ou je me souviens d'un petit engin qui devait rebondir sur la surface et qui a...
Alors attention, Phobos 1 a été perdu pendant la croisière. Et Phobos 1 a été perdu par une procédure totalement incroyable, dans la mesure où il avait été décidé d'arrêter un instrument de bord. Bon, vous savez que souvent les Russes utilisent la croisière pour faire ce qu'on appelle des expériences de croisière. On peut observer des étoiles, on peut faire des choses intéressantes. Eh bien, décision a été prise d'arrêter un instrument. Bien, simplement, l'ordre de télécommande était faux. Et le calculateur de bord, au lieu d'interpréter arrêter instrument X, il a interprété je m'arrête, moi. Et le problème, c'était même pas je me mets en veille, qui est quand même la seule procédure acceptable pour un satellite. Mais non, ça a été je me mets off. En gros, c'était une procédure qui n'était valable que pendant les phases de test au sol. Or, cette procédure devait être totalement interdite. Il n'est pas question d'arrêter un satellite, vous le tuez. Vous ne pouvez pas le rallumer, c'est-à-dire que le transpondeur est off. Il n'est plus capable de se... On ne pouvait plus le... Donc cet ordre était totalement interdit. Néanmoins, les Russes avaient laissé cette possibilité. C'est un petit peu le problème qualité, je dirais, qui est derrière. Phobos 2, c'est différent. Phobos 2, c'est la qualité, mais c'est un autre problème. On l'a su très tard, mais c'était pendant la phase d'approche de Phobos. Il n'y avait pas de plateforme de pointage. Donc il fallait que l'intégralité du satellite se dépointe pour observer Phobos lors de ses survols rapprochés sur cette orbite. On n'était même pas sur l'orbite QSO, donc on se rapprochait lentement de Phobos. Et au moment d'un dépointage, qui est évidemment une phase un petit peu critique, il y a eu une éruption solaire qui a frappé Phobos 2. Et cette éruption solaire a mis en, comme ça arrive souvent sur les satellites, le calculateur s'est mis en rideau. Mais d'habitude, vous avez une procédure de sauvegarde qui se met en route, c'est-à-dire que le satellite a un soft extrêmement solide en termes justement d'événements qui dit « Ah, j'ai un problème, je me mets en sauvegarde ». La sauvegarde, c'est quoi? C'est « Je me mets face au soleil, mes panneaux solaires face au soleil, j'attends les ordres ». Et au moins, j'ai mes batteries qui sont chargées. Là, il est parti en vrille, comme on dit, c'est-à-dire qu'il s'est mis à tourner sur lui-même. La batterie s'est vidée. Or, dès qu'une batterie est vide sur un satellite, on ne peut plus communiquer. Et si en plus il tourne dans n'importe quel sens, il ne peut pas, il n'a pas l'énergie, donc son transpondeur n'a pas l'énergie pour recevoir l'ordre, et donc il est perdu.
Si près du but.
Je voudrais juste préciser un point. Le problème avec les Russes, justement, c'est ça qui me fait peur avec Phobos Grunt, c'est que tant qu'on est nominal, tout va bien. Mais dès qu'on se quitte un petit peu de la trajectoire nominale, c'est-à-dire celle qui est prévue, on est très vite au bord de la catastrophe. Alors que dans les missions européennes, souvenez-vous Giotto, dans les missions américaines, il y a eu quand même des cas de récupération de missions.
Hipparcos
a été récupéré dans des conditions incroyables. Il y a eu le cas d'une plateforme de pointage sur Voyager. On a changé de senseur stellaire sur Voyager au bout de 25 ans de mission. C'était une procédure extrêmement complexe, difficile, mais qui a parfaitement réussi. Donc là, les Russes sont quand même plutôt... n'ont pas cette qualité qui permette de... pour parler vulgairement, de travailler sur trois pattes. Hubble a travaillé avec des roues à inertie qui ne fonctionnaient plus. Il y a beaucoup de satellites qui ont donné d'excellents résultats dans des modes qu'on appelle dégradés.
Dégradé.
Et dans le cas de, des missions russes, malheureusement, ces modes dégradés, ben, souvent, ils ne fonctionnent pas. On est très vite, on perd la sonde.
On était partenaires, nous, les Français, des Russes, pour la mission Mars 96, dernière tentative russe pour aller en direction de Mars. Là, ça s'est terminé pratiquement au départ. Qu'est-ce qui s'était passé, là ?
Là, c'est le lanceur Proton qui n'a, qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est l'étage supérieur qui n'a pas donné la poussée nominale et là où on devait être en orbite basse, parce qu'encore une fois on s'insère en orbite basse terrestre avant de partir vers Mars, et bien l'orbite était telle qu'on a fait une rentrée dans l'atmosphère immédiate.
Vous laissez supposer qu'au bout de 15 ans d'absence de mission interplanétaire russe, finalement les choses n'ont peut-être pas nécessairement beaucoup changé dans la préparation des missions interplanétaires du côté de la Russie. Que ce qui part là, finalement, c'est une sonde qui ressemble à un couteau suisse, ingénieuse certes, mais dans le couteau suisse, on n'utilise pas nécessairement toutes les lames, et certaines peuvent en gêner d'autres.
Oui, moi, ce qui, déjà, je l'ai un peu dit au tout début, ce qui me fait peur, c'est le fait d'avoir mis, par exemple, 20 expériences à bord, ce qui est quand même complexe à gérer. Pourquoi 20 ? Parce qu'il y a ces expériences qui vont observer l'atmosphère de Mars, d'autres la magnétosphère de Mars, etc. Alors que dans certaines missions de retour à l'échantillon, je pense à Osiris-Rex, qui est une mission américaine, vous n'en avez pratiquement aucun. Parce que l'objectif de la mission, c'est retour à l'échantillon. On a juste des caméras de navigation, on a peut-être un instrument pour faire quelques caractérisations in situ, mais c'est tout. Là, on fait un arbre de Noël complexe pour faire plaisir à tout le monde. Le tout le monde en question, ce sont les scientifiques russes. Ils ont tellement peu de missions que la volonté de Roscosmos, l'agence spatiale russe, c'est de réunir le plus grand nombre de scientifiques pour que chacun ait sa place. Mais le résultat, c'est qu'on a une mission extrêmement complexe.
Mais pourquoi y êtes-vous, vous, le CNES ?
Parce que, encore une fois, les missions de retour à l'échantillon sont extrêmement rares et sont extrêmement riches si elles sont un succès. Donc avoir accès à ces échantillons, c'est pour nous extrêmement important. Nous avons quand même des gens qui ont fait des analyses vraiment l'état de l'art, par exemple sur Genesis, sur les rapports de l'azote dans le vent solaire, c'est-à-dire dans le soleil. C'est une référence aujourd'hui de ce qu'est le rapport isotopique de l'azote, azote 14, azote 15 dans le solaire, et dans le soleil, pardon. Et ça a été fait au CRPG à Nancy. On a quand même une sonde qui est probablement l'une des meilleures au monde pour le faire. Donc on a des outils extrêmement performants pour analyser ces échantillons.
Alors j'imagine qu'on a peu d'idées du budget russe, c'est généralement peu chiffré. Notre budget, nous, on le connaît par contre.
Pour la partie française.
Oui, pour la partie française.
Oui, c'est quelques malheureux millions d'euros. Bon, ça paraît beaucoup, mais dans le spatial, c'est quand même pas beaucoup.
Ouais.
On doit être à environ 3, ce qui est très modeste pour une participation. On a fourni notamment l'instrument Microméga de l'IAS. Ça, c'est un instrument qui avait été développé pour, curieusement, pour une mission qui n'est toujours pas partie, qui est ExoMars, et notamment pour Rosetta. Donc, on utilise des instruments qui sont pratiquement sur étagère, donc qui nécessitent pas des développements qui sont très onéreux. Et nos autres contributions sont des sous-systèmes d'un instrument très complexe dont j'ai un peu parlé, qui est ce système de spectre de masse avec ce chromatographe en phase gazeuse.
Et est-ce qu'on sait ce qu'on fait des échantillons si des échantillons reviennent de Phobos ?
Alors, le problème, c'est qu'on a essayé de le savoir. On a posé des questions et pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Les Russes eux-mêmes, je ne suis pas sûr qu'ils ont vraiment défini leur stratégie. Typiquement, il y a la stratégie américaine qui est une référence, qui est celle d'Apollo. Dans Apollo, tous les échantillons ont été distribués sur un appel d'offres, donc avec évaluation par les pairs, c'est-à-dire sur le mérite scientifique uniquement. Et n'importe qui dans le monde pouvait avoir accès. Bon, je peux vous dire que les Américains, ils faisaient la gestion de ces échantillons au milligramme près. Et au bout d'un an, on vous envoyait un mail en disant « Bon, alors, où en êtes-vous ? Il vous reste 3 mg, vous les renvoyez, ils ne sont pas utilisés. » Donc, tout ça était extrêmement, et toujours d'ailleurs, extrêmement précis. Il y a d'autres stratégies, notamment les Luna 16 et 24. Ça a été l'inverse, c'est-à-dire que tous les échantillons étaient distribués aux gens autour, à l'équipe. Nous avions un scientifique dans cette équipe, qui était M. Paul Vast, et qui a été un petit peu le cheval de Troie au grand bénéfice des scientifiques français, qui grâce à je crois que c'est Paul Pelvast, a obtenu ces échantillons et comme ça, certaines équipes en France ont analysé l'échantillon des Luna 16-24. Après, vous avez des considérations. Sur Hayabusa, les Japonais ont 1500 grains. C'est quand même, ça se chiffre même pas en picogrammes, donc c'est vraiment très peu.
Ça se divise peu.
Donc, ça se divise peu, mais je peux vous dire que les Américains avaient négocié 10%. Ce qui est un petit peu contraire à leur principe. Sur Apollo, il n'était pas question de négocier 1% pour un tel. Mais par contre, ils se permettent de négocier avec les Japonais 10% pour eux, pour leur communauté, bien sûr. Mais ça m'a un petit peu troublé, on va dire.
C'est ce qu'on appelle la space dominance.
Oui, c'est... Voilà. Bon. Donc, tout est possible, mais je pense que les Russes pourraient panacher un petit peu entre une distribution ouverte et quelques échantillons pour les équipes proches de ceux qui ont contribué à la mission.
Pour compliquer l'affaire Grunt Phobos, il y a un petit satellite passager, en plus de ce satellite principal, qui est chinois. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, Yongguo, il s'appelle Yongguo 1, et c'est un microsatellite qui doit faire dans les 100-150 kilos, qui n'a aucun moyen d'aller sur Mars tout seul. Donc en fait, il est en piggyback, comme on dit en anglais, il est en porte-bagages, il est sur le porte-bagages, et la sonde Phobos Grunt a pour mission de le déposer sur son orbite. Donc il a très peu d'ergol à bord et depuis cette orbite, il aura juste de quoi contrôler son attitude et ensuite il sera autonome. Donc il sera vraiment mis à poste par les Russes et de là, il est destiné à observer Mars essentiellement, plutôt un peu la magnétosphère. Il y a des expériences plasma. Nous avons un Français qui est un plasmicien de l'IRAP à Toulouse qui est impliqué dans ce satellite chinois.
Mais il doit être largué, sinon Grunt Phobos ne fonctionne pas parce qu'il est devant le moteur, si j'ai bien compris.
Donc, alors, sera largué effectivement après l'insertion en orbite martienne, c'est-à-dire après que le moteur principal ait donné toute son énergie, c'est le cas de le dire, et ensuite ce moteur est largué, et ensuite on peut larguer Yongguo, puisqu'il se retrouve effectivement entrelacé entre le moteur et la sonde principale.
Ça fait beaucoup d'étapes critiques, ça. Oui. Réussir à se mettre en orbite, ensuite pouvoir allumer le moteur à destination de Mars, freiner, se mettre en orbite martienne, rejoindre l'orbite Phobos, larguer le satellite chinois, se rapprocher. Vous avez listé toutes les opérations. Chaque étape est considérée comme critique pour imaginer un retour d'échantillon. Je dirais aujourd'hui, on y croit peu, mais on espère que ça puisse marcher en se disant ça serait génial. Quoi. Si je résume la philosophie, c'est ça.
Voilà, c'est à peu près ça. C'est une mission très difficile. Les Russes n'ont pas envoyé de sonde depuis 15 ans, et encore celle d'il y a 15 ans a échoué, comme vous l'avez dit. Donc, ils ont un peu perdu le savoir-faire. Leur dernière mission planétaire, c'était Phobos 88. Donc, ça nous repousse à très loin, et encore, c'était un demi-échec. Donc, là, ils sont devant une mission qui est extrêmement difficile. Je crois que si les échantillons arrivent sur Terre, ça sera véritablement un miracle. Mais je ferai référence à une autre mission qui est une grande fierté japonaise, c'est Hayabusa, qui a été calamiteuse, très très difficile. On a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises, et ils se sont récupérés. Et finalement, ils ont quelques grains, pas beaucoup, mais ils en ont quand même. Et c'est confirmé. Donc ça peut arriver. Voilà.
Dans quel état aujourd'hui, vous qui connaissez bien les Russes, la science russe, est-ce qu'elle a bénéficié de moyens supplémentaires par rapport à ce qui se passait il y a 15 ans, ou est-ce qu'elle est, un peu en veille, ou en tout cas, elle attend qu'une mission fonctionne pour retrouver une légitimité, mais en tout cas des crédits, de l'assurance, où ça en est ? Est-ce qu'il y aura une suite à Grunt Phobos, par exemple ?
Alors oui, il y a une suite, c'est-à-dire que le programme planétaire russe est très riche aujourd'hui. Il y a deux missions vers la Lune, Luna Globe, Luna Ressources, il y a une mission vers Venera D, vers Vénus, il y a une mission de retour à l'échantillon de la Lune, il y a une mission de type réseau géophysique martien, etc., etc. Maintenant, vous dire que tout ça est vraiment crédible et que les dates de lancement annoncées sont crédibles, non, je pense que c'est pas très crédible. Ça paraît fou même. C'est-à-dire que les missions Luna Globe et Luna Ressources, c'est lancement dans 2 ans et dans 3 ans. Donc c'est vraiment tout de suite. Alors on connaît la méthode russe. Elle est éprouvée. C'est-à-dire qu'ils fabriquent une sonde et ensuite ils l'appliquent à Phobos Grunt. Mais c'est la même sonde qui va se poser sur la Lune avec des petites modifications. Donc ils ont. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils l'ont fait par le passé. Néanmoins, ça me paraît très ambitieux. Je crois que aujourd'hui, les Russes ont un savoir-faire qui commence à être ancien. Il y a le problème de l'évolution des technologies, sur beaucoup de technologies clés, sur les électroniques. Vous savez que sur ces sondes, il y a toujours un peu un anneau. Pourquoi il y a cet anneau sur les sondes russes ? Parce que une bonne partie de l'électronique ne résiste pas au vide. Donc systématiquement, ils mettent une bonne partie de leur électronique dans un anneau pressurisé. Mais depuis que le début de l'ère soviétique, c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, vous les voyez sur les Vénéra, vous les voyez sur la sonde Vega, vous les voyez sur Mars 96, il y a toujours cet anneau qui est en fait un lieu pressurisé. Ça paraît incroyable. Alors que tous les autres, l'Europe, la France, les Américains, nous fabriquons des électroniques qui fonctionnent sous vide. Mais eux, en sont restés à d'autres concepts, on va dire. Et sur certaines technologies clés, la coopération est absolument indispensable. Parce que, par exemple, on apporte des détecteurs infrarouges qui n'ont pas. Et qui leur coûtait trop cher à approvisionner là où ces détecteurs sont fabriqués. Ça peut être en France, mais ça peut être souvent aux États-Unis. Donc ils peuvent être extrêmement onéreux. Et là, ils n'ont pas les moyens. Le cours du rouble est tel que. D'où la nécessité de coopérer et pour justement que certaines technologies soient apportées à travers la coopération.